Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Calling, votre émission interactive sur ces sujets qui font ou défont l'actualité. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Le sort de l'ancien chef d'État tchadien est connu depuis hier. Les chambres africaines extraordinaires de Dakar ont condamné Hissène Habré à la perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Alors, que pensez-vous de ce verdict? C'est la question principale que nous vous posons ce soir. Vous pouvez intervenir à cette émission en appelant en direct le 001 203 619 31 40 ou en nous écrivant sur Facebook. John Lyndon à la présentation, Joselle Morissin à la production avec l'assistance de Fred. Dans ce studio, j'ai comme invité Timothée de Nanmaille, mais nous allons d'abord au téléphone accueillir Reid Broudy. Bonsoir. Reid?
Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous nous dites à propos de ce verdict qui est tombé hier?
Bon, ben, c'est une immense victoire pour ces victimes, ces rescapés tchadiens qui n'ont jamais abandonné l'espoir et la lutte pour que Hissène Habré soit traduit en justice. Ça fait 25 ans de sueur, d'obstination qui est couronnée par un procès équitable et par ce verdict historique.
Alors, vous pensez que le procès était équitable?
Oui, je pense, oui. Et je ne vois pas en quoi il n'était pas équitable. Hissène Habré a choisi, comme c'est son droit, de ne pas se défendre. Mais le Sénégal a été compétent. La Cour internationale de justice en 2013 à 2012 a ordonné le Sénégal de juger Hissène Habré ou de l'extrader. Le Sénégal a choisi le procès au Sénégal. Les juges étaient des juges indépendants. Hissène Habré jouissait de ses droits. Il a choisi de ne pas participer, mais cela n'a pas exonéré le parquet de la charge d'apporter les preuves pour soutenir l'accusation.
Alors, Monsieur Broudy, vous restez avec nous. Je sais que vous nous avez accordé quelques minutes seulement, mais de l'autre bout de la ligne, j'ai Maître Ibrahima Diawara. Maître Diawara, bonsoir. Comment vous réagissez aux propos de Monsieur Broudy?
Oui, je vous remercie. J'ai entendu parler de procès équitable. Je note simplement qu'on vous a dit que le procès était équitable, que le président Hissène Habré avait ses droits et tous ses droits qui ont été respectés. Je pense que c'est ça, les chambres africaines extraordinaires. On fait des litanies, on fait des discours, on dit qu'il y a des crimes au Tchad, on dit qu'il y a 48 000 morts, mais c'est 48 000 morts sans identité. On ne vous dit pas qui sont les 48 000 morts, quels sont leurs noms, quels sont leurs prénoms, où est-ce qu'ils ont habité au Tchad. En fait, c'est ça les chambres africaines extraordinaires. On fait une instruction exclusivement à charge. On va au Tchad, où le président Hissène Habré est né, a été préfet, a dirigé. On met une instruction pendant 2 ans. On vient présenter une instruction exclusivement à charge, où il n'y a que les témoins qui sont des témoins à charge. On a un réquisitoire du procureur qui a été fait sur la base des travaux qui ont été menés par Human Rights Watch et la FBIH, à savoir ceux qui ont été les adversaires de Hissène Habré pendant 25 ans. Et on vient nous dire que c'est un procès qui s'est passé, on a respecté tous les droits.
Alors, maître,
je pense que...
Maître Diawara, merci. Merci pour votre réaction. Évidemment, on ne va pas refaire le procès de M. Hissène Habré ici, mais je vais donner la parole à M. Broudy pour une dernière réaction. Est-ce que vous avez eu les réactions? On me fait savoir qu'il n'est pas disponible. Je vais donc accueillir ici dans ce studio Timothée de Nanmaille. Bonsoir Timothée.
Bonsoir John.
Alors vous avez la particularité, vous, d'être d'origine tchadienne et que vous avez peut-être beaucoup plus de connaissances sur l'homme qui est condamné aujourd'hui, l'ancien président Idriss, j'allais dire Hissène Habré, autant pour moi. Votre réaction ?
Alors, John, j'ai la particularité d'être originaire du Tchad et d'avoir travaillé aussi pendant 4 ans sous l'époque d'Habré. Le souvenir que je garde de cette époque, c'est ce sentiment d'être dans un état policier où tout pouvait vous arriver, où on pouvait vous dénoncer et vous pourriez comme ça disparaître. Donc c'était vraiment une situation très 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 inquiétante, surtout vers la fin. Et donc c'est le souvenir que je garde de cette époque-là.
Alors, vous restez avec nous. On va prendre Papa Ismaïla Dieng. Papa Ismaïla Dieng, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes journaliste et vous animez un blog. Et ce blog a couvert, ou plutôt vous avez couvert le procès Hissène Habré de bout en bout. Qu'est-ce que vous retenez comme grande étape de l'homme et de ce procès ?
Alors, de ce procès, les grandes étapes, c'est d'abord à l'ouverture. C'était pour nous, Sénégalais, qui ne connaissions pas ce genre de procès. C'était une grande curiosité comment ça allait se passer. Et on n'a pas été déçus à l'ouverture des troubles qu'il y a eu. Hissène Habré qui refuse de venir, qui est ramené de force finalement. L'autre grande étape, c'est pendant des témoignages, surtout lorsqu'on a parlé des violences sexuelles, parce qu'on a beaucoup parlé des tortures et autres, mais on n'avait aucune idée de ces violences sexuelles-là, nous. Et ça nous a surpris de savoir qu'il y avait ces choses-là. Également pendant les plaidoiries, on a essayé de voir, on a vu beaucoup de nouvelles choses pendant ces plaidoiries. Ça, pour moi, c'était vraiment les grandes étapes de ce procès qui, quand même, faut le dire tout au long, a fait la litanie de toutes les atrocités dont on entendait parler de loin et qu'on a vu des gens qui nous ont dit avoir subi ces atrocités-là. C'était très important pour nous.
Alors, Timothée, est-ce que ce qu'on a retenu du président Hissène Habré, c'est seulement ces horreurs ou cette terreur que beaucoup décrivent sur le plan du développement du Tchad ou tout au moins de l'image du Tchad à son époque? Qu'est-ce qu'on peut garder comme souvenir?
Alors, d'aucuns parlent de quelqu'un qui a su gérer les faibles ressources de l'époque au niveau du pays. Donc, bon, on dit que c'était un bon gestionnaire. Mais le fait est que tout était centralisé au niveau de la présidence. Il avait un droit de regard sur tout. Et en tout cas, ce que on retient, c'est que on avait ce sentiment-là que tout tournait autour de lui et que voilà, on essayait de se tenir tranquille pour ne pas attirer l'attention, parce qu'il suffisait d'un rien pour vous mener dans un endroit pas très confortable. Je me rappelle avoir un jour assisté à la libération de prisonniers, de détenus dits politiques. C'était au commissariat central. Et là, j'ai vu une femme avec son bébé. J'ai vu un petit garçon de peut-être 13-14 ans comme ça. Et j'ai vu des gens ordinaires. La seule personnalité qui aurait pu être à l'époque considérée comme détenu politique pour ses opinions, c'était peut-être le défunt Bachar Mukhtar Bachar que j'ai vu là-bas. Mais sinon, les autres, c'était des gens ordinaires qui ne pouvaient pas vraiment prétendre à une opinion politique qui puisse attirer l'attention ainsi au lieu. Donc ça vous montre que c'était une époque vraiment très, très, très dangereuse pour les Tchadiens.
Voilà, on va prendre un auditeur au téléphone, Bakary Keïta. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, merci pour votre fidélité à VO Afrique. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites, comment vous réagissez à ce thème, au verdict de Hissène Habré?
Ah, ce thème quand même est à la une. Moi, quand même, moi je vois cela sous des angles. Dans un premier angle, j'affiche une satisfaction morale parce que l'Afrique vient de juger un de ses fils sur le sol africain. Pour le, cette fois-ci, on n'a pas parlé quand même de la Cour pénale, même derrière ce jugement, même si derrière ce jugement, il y a des pressions internationales. Mais le deuxième point, là, se situe quand même, à mon avis, sous des bémols. Le premier bémol se situe, à mon avis, sous le titre de M. Abré. Durant ce procès, cela a quand même terni un peu l'image quand même du procès. Abré devait quand même parler, se défendre avec et contre pour voir vraiment s'il est fautif ou pas. Le second bémol, à mon avis, se situe sur la source de financement. Est-ce que c'est financé, par exemple, par les pays occidentaux? Si c'est le cas, en tout cas, l'indépendance encore de la justice là, doit être mise quand même, entre guillemets. À mon avis, c'est un début, c'est une satisfaction. Abré n'est pas le seul président à être en Afrique. Bien sûr, au Mali, si Moussa Traoré a été aussi jugé.
Voilà. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, Maître Diawara, finalement, tout le monde peint votre client comme étant, on va dire, hein, le monstre. Est-ce que ce chemin-là est vrai?
En fait, vous savez, le procès qui s'est déroulé, vous savez, ce qui nous étonne un tout petit peu dans ce procès, c'est qu'on juge le président Hissène Habré en commençant à dire qu'on ne lui reproche pas d'avoir commis des actes en tant qu'auteur, mais il est poursuivi en tant que responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Alors, quand vous voulez rendre une personne responsable de ce fait, il y a un préalable qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Dès lors qu'on accepte de dire qu'il n'a pas été auteur de tous ces faits dont on parle au Tchad, il en a été le supérieur hiérarchique, mais dans un État, il y a ce qu'on appelle la chaîne de commandement. S'il en est responsable en qualité de supérieur hiérarchique, pourquoi ceux qui veulent le juger ne sont pas allés chercher cette chaîne de commandement de supérieur hiérarchique? Par où il a donné l'ordre? L'ordre est passé par qui? Comment ces ordres prétendument donnés sont passés dans la chaîne de commandement de l'État tchadien pour arriver au niveau de ses services de sécurité? Alors, on ne comprend plus comment quelqu'un supérieur hiérarchique peut être tenu responsable sans qu'on prenne le temps de prouver aux gens que ce supérieur hiérarchique, voilà les ordres qu'il a donnés à tous les échelons intermédiaires jusqu'à ce qu'on arrive à l'échelon inférieur.
Alors, il y a une réaction. Maître Diawara, une minute. Monsieur Donormaï voudrait réagir ici.
Oui, à ce sujet, John, il faut noter cette ambivalence des autorités de N'Djamena vis-à-vis de cette affaire Hissène Habré. D'un côté, publiquement, ils ont affiché la volonté de faire juger l'ancien président. Ils ont même apporté une contribution financière. Mais de l'autre côté, on a aussi senti qu'on traînait un peu le pas à N'Djamena. Il y avait déjà une plainte des victimes à N'Djamena qui a traîné pendant longtemps. Et il y a eu quelques anciens responsables de la DDS, la célèbre police politique d'Abré, qui ont été arrêtés. Et subitement, à N'Djamena, on a décidé de les juger sur place plutôt que de les envoyer comparaître à Dakar. Donc tout cela donne une image assez confuse de l'attitude des autorités tchadiennes d'aujourd'hui vis-à-vis du procès Abré.
Alors, à l'actif de Maître Diawara, je vais lire cette réaction de Facebook de Mamadou Songonda qui dit « J'aime que justice soit rendue et je déteste l'impunité. » Mais je pense que s'il faut juger comme il faut, Abré ne devrait pas être le seul à être condamné. Je veux parler là des exécuteurs. Abré était certes le donneur d'ordre. Je vais prendre un autre auditeur au bout de la ligne, c'est Paul Léonard. Paul Léonard, bonsoir.
Bonsoir, c'est John Lindon.
Alors, vous avez suivi en quelques minutes notre débat. On parle du verdict d'Abré qui est tombé hier. Votre réaction?
C'est une réaction mitigée. Je crois que on peut se satisfaire de ce que les auteurs de massacre puissent être jugés sur le sol africain, mais je reste un peu sceptique, pour dire le moins, n'est-ce pas, du déroulement de ce procès, et je me pose la question, pourquoi Abré et pas d'autres? Donc, globalement, c'est ça ma réaction à chaud. Qu'il y ait eu un procès, c'est pas déjà une mauvaise chose. Je rejoins le point de vue d'un intervenant précédent qui parlait de la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, on sait bien qu'Abré était, c'est un homme qui a été monté, hein, et fabriqué de toutes pièces par la France. C'est un maillot de la France-Afrique. Alors, si Abré a pu prendre le pouvoir, s'il a pu s'éterniser pendant longtemps au pouvoir, on parle aujourd'hui d'exactions qui ont été commises. Si toutes ces exactions ont été masqué pendant un certain temps, c'est parce que Hissène Habré bénéficiait de soutien politique et de solide soutien au niveau de Paris. Alors aujourd'hui, on le juge comme si Hissène Habré était sorti tout seul, de nulle part, s'était emparé du pouvoir et agissait de son propre chef. Nous savons bien que cela n'est pas vrai. Donc, si on veut vraiment nettoyer les écuries d'Orgias, je crois qu'il faut aller plus en profondeur.
Voilà.
Sinon, ce seront des procès pour amuser la galerie.
Merci. Merci pour Léonard. On va vous laisser partir compte tenu de votre temps. Je vais prendre un autre auditeur au bout de la ligne. Il s'agit de Mamadou, c'est ça?
Oui, monsieur. Bonsoir.
Voilà, bonsoir. Votre réaction?
Bon, moi je dirais que je suis très content du fait que Hissène Habré a été jugé au Sénégal, ici en Afrique. Parce que cela peut donner une leçon à tous les présidents dictateurs qui sont actuellement en Afrique et qui sont capables de faire tout à leur population. Donc, ça veut dire que, bien sûr, il y a celui-ci qui a été jugé, mais on doit encore juger ses complices parce qu'il avait des enfants partout. Qui les aidait à exécuter, à faire des massacres, à faire des partout. Donc ça veut dire qu'on doit aussi juger ces gens-là partout où ils sont, ou partout où qu'ils sont.
Voilà.
On doit les juger. Parce qu'on ne doit pas juger seulement Hissène Habré et laisser les autres.
C'est
donc
entendu.
On doit juger tous les gens-là et donner encore des leçons aux présidents africains qui sont en train de devenir aujourd'hui des lions sur leur population et qui sont en train de faire ce qu'ils veulent à la population.
Merci
donc,
beaucoup.
C'est une satisfaction pour l'Afrique et une satisfaction pour...
C'est entendu. Alors, nous sommes... je vais lire rapidement une réaction aussi de Facebook. C'est Amson Amsmouth qui dit « Nous sommes très contents que des procès du genre aient lieu en Afrique. Si cette cour africaine faisait des procès du genre, la CPI n'aurait aucune importance. La justice africaine pour les Africains, nous l'encourageons. Que les actuels dirigeants africains renforcent cette juridiction afin que la justice règne en Afrique. » Alors, Timothée Donangmaï, est-ce que la situation a changé au Tchad aujourd'hui?
La situation au Tchad, si vous suivez les dernières nouvelles, bon, au plan politique, c'est toujours le bras de fer entre l'opposition et le gouvernement du président Idriss Déby Itno. À la faveur de la dernière présidentielle, les opposants, en tout cas 6 d'entre eux, ont décidé de faire front pour le contrer sur tous les points. Du point de vue de ses opposants, la situation n'a guère changé. En fait, l'autre fois, d'un point de presse tenu par ses opposants, ils ont dit que l'Agence nationale de sécurité, qui a succédé à la tristement célèbre DDS, en fait, que c'était la même chose, que cette agence-là fait exactement ce que faisait la DDS dans l'OTAN. Et pour parler de cet auditeur qui dit que c'est une bonne chose que Habré soit jugé en Afrique plutôt qu'ailleurs. Je dois dire, John, que les leaders africains ont dansé une sorte de ballet autour du dossier Habré et finalement, ils ont adopté une solution qui n'est pas vraiment définitive puisque c'est une juridiction ad hoc qui a jugé Habré. Elle a été mise sur pied uniquement pour le cas Habré. Alors que si les leaders africains étaient vraiment sérieux, ils auraient mis sur pied une juridiction permanente pour ces cas-là. Et on sait qu'il y a bien la Cour africaine des droits des peuples et de l'homme qui est là, mais qui, de toute évidence, n'a pas été à la hauteur.
Tout à fait.
Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur cette solution ad hoc. Donc, c'est un débat qui est loin d'avoir été vidé au niveau des leaders africains.
Alors, je vais repartir vers Maître Diawara. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la suite?
Bien, je vous remercie. Nous, ce que nous avons décidé de faire, nous l'avons déjà dit depuis le début du procès. Nous avions dit que, compte tenu des
conditions dans lesquelles le procès a été mis en place, où on n'a pas respecté les droits du président Hissène Habré qui devait être jugé, où on a mis une instruction qui était sous l'autorité des corrupts, on a vu ce qui s'est passé. Et compte tenu du fait qu'il y avait une décision qui a été prise par la CEDEAO, qui avait dit à l'Union africaine, vous, organisation politique, vous n'avez pas un mandat pour vous initier dans une affaire judiciaire,
oui,
et qu'il fallait une juridiction ad hoc à caractère international. Quand nous avons constaté que le Sénégal qui était parti à cette décision, où on lui avait dit que l'Union africaine ne peut pas piloter, ne peut pas participer à la mise en place d'une juridiction parce qu'elle était une organisation politique, quand nous avons constaté que le Sénégal n'était pas prêt à respecter les décisions qui ont été rendues par la CEDEAO au profit de notre client, nous avions décidé de ne pas participer à ce qui constitue une justice,
mais voilà.
C'est une justice qui devait être rendue par le compte des droits qui étaient reconnus à la CEDEAO.
Merci. Merci, merci, Maître Diawara. Je vais prendre pour une minute encore Papa Ismaïla. Vous avez quand même couvert en tant que journaliste cette actualité. Est-ce que vous avez eu des réactions des victimes au niveau du Sénégal notamment?
Oui, là hier nous en avons interviewé quelques-uns. Bien évidemment, ils sont tous très satisfaits de la situation. Et ils pensent tous maintenant à la deuxième partie qui va être le procès pour les intérêts civils, parce que ça devrait commencer incessamment, normalement. Mais globalement, ils sont tous satisfaits, ils étaient tous très contents de cette situation. Il y a même Souleymane Guenguen qui pense que lui, avec cette décision, il peut retrouver sa dignité d'homme qu'Hissène Habré lui avait enlevée.
Alors,
c'est la phrase forte que j'ai entendue hier.
Alors, je vais prendre Alphonse Mboaké au téléphone. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, John London.
Voilà, on vous écoute.
Moi, je dénonce, je compte la sécurité des dictateurs africains. C'est-à-dire la sécurité des dictateurs africains se base sur des milices privées. C'était le même système avec Mobutu, mais nous aussi avec un système de sécurité comme le BDS, comme la ANR aujourd'hui, Agence nationale des renseignements.
Oui.
Les ministres de police et politiques. Alors que quand on voit en France là-bas, la sécurité présidentielle, elle est républicaine. On ne peut pas prendre le secret des jeunes et tribus qui font sécuriser un président et puis ces gens-là commencent à tuer les populations, comme à opprimer les gens comme ils veulent participer, parce qu'ils ont ils dépendent du président de la République. Donc, c'est le même système. On a vu ça avec Bougouni Oyedé, on a vu ça avec Bokassa, avec Maréchal Mobutu, on a vu ça avec la plupart des éducateurs.
Alors, merci Alphonse. Timothée de Nangmaï, on a aussi constaté que beaucoup d'argent a été investi pour juger un seul homme. Est-ce que c'est pas un peu du gaspillage, en fin de compte?
Du gaspillage, non. C'est un procès que les victimes souhaitaient, que les victimes voulaient qu'on leur rende justice. Donc, de ce point de vue, et la justice, à mon avis, n'a pas de prix. Et donc, justice a été rendue. Mais il est clair que sur le long terme, les victimes repartent un peu avec un sentiment d'insatisfaction, parce qu'on a jugé, Habré à Dakar, on a jugé une vingtaine de ces hommes de main à N'Djamena. On parlait de 40 000 morts, c'est pas quand même 30 personnes qui ont tué 40 000 personnes. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire.
Voilà.
Pour s'absoudre de ce qui s'est passé là-bas.
On va prendre un dernier auditeur au téléphone, Hamson Asmoud, qui parlait de la CPI. Hamson, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, on vous écoute pour votre réaction en quelques secondes. Oui, allez-y.
Oui, vraiment, à propos du procès d'Hissène Habré, c'est une bonne chose pour nous les Africains. Sinon, si l'Afrique continue comme ça, nous n'avons plus besoin de la CPI. Ça peut nous arranger. Hein. Sinon, c'est très bon, vraiment. Nous sommes très ravis
qu'il
y ait des cours pareils en Afrique.
Ben, sauf que c'est une cour qui a été mise en place spécialement pour juger Issenabré.
Ok. Seulement, non. Nous souhaitons au moins que ça se passe pour tous les présidents africains qui font du mal au peuple africain.
Merci Hamson. On est pris par le temps. On va faire un dernier tour de table en quelques secondes. Maître Diawara, en deux secondes, votre mot de la fin.
Ben, je trouve que c'est malheureux. Quand la police essaie de faire une justice, il faudrait qu'ils prennent des mesures pour faire une justice qui répond aux standards d'une justice normale, impartiale, égale pour tout le monde.
Merci. Papa Ismaïla Dieng, un mot de la fin pour vous?
Pour moi, il faudrait tirer les conclusions de cette cour et puis essayer de voir si ça peut devenir une cour permanente au lieu d'une cour extraordinaire. Comme ça, comme l'a dit un des auditeurs, que l'Afrique n'a plus besoin de la CPI.
Merci. Timothée, le mot de la fin?
J'abonde dans le même sens. C'est un premier pas, un bon pas, mais il reste encore beaucoup, beaucoup d'autres étapes à franchir avant que l'état de droit ne s'ancre réellement en Afrique.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce calling spécial consacré donc à Issenabré. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Bonsoir.